20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité, les moments qui ont marqué un avant et un après. Ce soir, notre jour J est le 2 octobre 1972. Michel Polnareff montre ses fesses sur l'affiche qui annonce ses concerts à l'Olympia. Avant tout le monde et malgré lui, Polnareff a créé le buzz.
À vrai dire, je m'attendais à quelques réactions. On a parlé au Quai des Orfèvres de mots comme provocation à la débauche et des choses comme ça. Moi, je dois dire que c'est avant tout un canular. Et que ce que je cherchais, c'était à faire rire ou sourire même les gens dans un pays où on rit de moins en moins.
Nous sommes le 2 octobre 1972. Paris est en émoi devant une paire de fesses qui deviendra culte. Dans la nuit, 6000 affiches grand format ont été placardées dans les rues de la capitale pour annoncer une série de concerts à l'Olympia. On y reconnaît le chanteur Michel Polnareff, de dos, travesti et postérieur à l'air. Scandale. Dans une société corsetée et conservatrice où l'avortement est un crime, l'homosexualité une maladie mentale, un an après la première grande manifestation féministe en France, cette paire de fesses vient froisser la bien-pensance et donne des sueurs froides aux adeptes du politiquement correct qui règnent encore sur le milieu artistique. Je trouvais que montrer son cul, c'était une pantalonnade, si j'ose dire, une rigolade. Et puis finalement, ça prend des proportions plus énormes. Un petit cul peut amener de grandes choses, commentera Polnareff. Et pour cause, ce qui ne devait être à la base qu'une facétie prend très vite une tournure politico-judiciaire. On déclare l'affiche contraire à la décence et on la censure. Couvrez ce cul que je ne saurais voir. Les affichistes collent un petit rectangle noir sur le postérieur du scandale et leur syndicat porte plainte contre Michel Polnareff. La sanction tombe, le tribunal correctionnel le condamne à 60 000 francs d'amende pour attentat à la pudeur. La maison de disques se chargera de la douloureuse. Le buzz est né, mais Polnareff l'avait-il compris ? Depuis toujours, celui que l'on surnomme l'homme aux lunettes blanches est un électron libre. Peut-être la conséquence d'une enfance à la dure sous les gifles et les coups de ceinturon d'un paternel compositeur pour Piaf et Montand, tyrannique et intransigeant, qui voulait faire de son fils un prodige du piano. Alors Polnareff a pris le large. Il y a quelques années encore, celui qui fait scandale aujourd'hui en montrant ses fesses en grand format faisait du porte-à-porte, chantait sur les marches du Sacré-Cœur et grattait sa guitare achetée avec ses dernières économies. En 1966, personne ne connaît encore celui qui se cache derrière cette chanson que tout le monde fredonne. La carrière de Polnareff démarre sur les chapeaux de roue. Moulé dans son pantalon poutre apparente, caché derrière ses lunettes qui corrigent une myopie sévère et sa crinière bouclée, il enchaîne les succès et les tournées triomphales et devient l'un des visages incontournables de la scène musicale des années 70. À son succès s'ajoute un mode de vie mystérieux qui fera sa légende. À l'heure où il fait baisser les yeux puritains devant cette affiche désormais culte, Polnareff ignore encore que ce trame l'un des drames de sa vie. Pendant qu'il prépare ses concerts à l'Olympia et gère une carrière tambour battant, Bernard Senot, son homme de confiance que lui a présenté un jour son garde du corps, vide ses comptes, l'escroque de plus de 150 000 euros et va ouvrir un restaurant à New York. Polnareff est ruiné. Le fisc lui réclame 1 million de francs. Une seule solution, l'exil en 1973. Direction les États-Unis, mais son pays lui manque. C'est de là-bas qu'il écrira l'une de ses plus belles chansons, Lettre à France.
Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas.
La France avec laquelle il entretiendra une relation tumultueuse, tout comme ses amours toujours tourmentés. C'est en France, justement, dans la chambre 128 du palace parisien Le Royal Monceau, qu'il se terrera pendant 800 jours au début des années 90, noyant dans l'alcool sa peur de devenir aveugle. Portrait et vie ce soir d'un homme guidé par la liberté, animé par l'angoisse de l'abandon, un visionnaire qui, bien avant tout le monde et peut-être malgré lui, a compris ce qui anime notre société d'aujourd'hui, le buzz. Dans un instant, Benoît Cachin, journaliste spécialiste de la chanson française, sera notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous dans Jour J. Nous sommes en direct. Jour J, c'est l'émission, le magazine qui vous fait voyager dans le temps et qui revient sur ces instants, je dirais, de bascule, ceux qui ont marqué un tournant et marqué nos mémoires. Ce soir, nous sommes le 2 octobre 1972 et Michel Polnareff tombe le bas.
J'avoue que ça dépasse un peu ce qu'on avait prévu au départ, parce que je trouvais que finalement montrer son cul, c'était c'était une pantalonnade, si j'ose dire. Et puis j'avoue que ça prend des proportions plus énormes, vous voyez, qu'un petit peu.
Benoît Cachin, bonsoir.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste spécialiste de la chanson française. Vous avez un très beau pull marin pour ceux qui nous suivent.
Merci.
Sur
un hommage à Isabelle Adjani. Voilà.
Exactement, votre petit pull marine.
Voilà.
Sauf que ce soir, on va parler de Michel
Polnareff.
Exactement, quelque part, c'est l'amiral. C'était son surnom d'ailleurs.
Exactement.
L'un de
c'est
ses
toujours son surnom.
Ouais,
voilà.
Pourquoi?
Parce qu'il a dit qu'il était le capitaine de ses fans. Voilà, c'était l'amiral. Voilà,
il
les
a emmenés. Il a de l'ego, hein.
Ah oui. Ouais. Ah oui.
Michel Polnareff, c'est quand même
beaucoup,
tout un personnage.
Oui, oui, c'est un vrai personnage haut en couleur. Et voilà. Et 72, c'est en effet une date importante dans sa carrière.
Est-ce que l'on peut dire que cette affiche qui nous fait sourire aujourd'hui,
hein,
moi je l'ai revue en préparant cette émission, il n'y a pas de quoi non plus en faire tout un fromage. Est-ce qu'on peut dire que cette affiche représente quelque part l'un des premiers buzz dans le milieu artistique, voire
ah
le
oui.
premier?
Oui, je pense que vous avez raison. C'est même voir le premier buzz, en tout cas en France. Il faut se remettre à l'époque. On est sous Pompidou. Alors certes, 1968 est passé par là. La libération sexuelle commence tout doucement. Mais les Français ne sont pas encore prêts à avoir un nu masculin. Mmh. C'est-à-dire que autant les publicités pour les femmes commencent à les dévêtir allègrement, les hommes, c'est pas encore ça. Hein. On n'est pas encore les pubs de slip pour les garçons. Donc lui, il arrive avec cette photo de Tony Frank, qui est le grand photographe des années 70-80, qui a beaucoup photographié Johnny Hallyday, entre autres. Et donc ils ont cette idée un peu de sale gosse, en fait, parce que pendant la séance, il y a cette robe de mariée, il s'amuse à se déguiser en mariée, il met le chapeau, et puis il se retourne, il n'a pas de slip.
Il montre son petit cul.
Et il montre son cul, voilà. Mmh. Et Tony Frank photographie, mais c'est un peu une photo prise comme ça au hasard. Hein.
Mais il n'avait pas pensé au scandale, parce qu'il s'en est défendu, hein. C'est
alors,
ce que j'expliquais il y a un
oui,
instant.
Oui, je pense qu'il n'a pas, quand ils ont fait cette photo par hasard, comme ça.
D'accord.
Après, quand il décide d'en faire son affiche, c'est là où il est loin d'être bête, Polnareff, et je pense qu'il savait que ça allait faire beaucoup parler, parce que donc, pour revenir à ça, en 72, même s'il y a la libération sexuelle, les gens ne sont pas encore prêts à voir un cul de mec, hein, en gros, dans la rue, en 4x3. Donc ça fait scandale, il va faire scandale. Je pense qu'il se doutait que ça allait faire parler.
Voilà. Alors, est-ce qu'il aurait imaginé, effectivement, que l'affiche serait déclarée contraire à la décence, qu'il se prendrait une amende de 60 000 francs, qui a été payée donc par la maison de disques?
Exactement.
Qu'il aurait un petit carré blanc, non pas carré noir comme j'ai dit, mais un beau petit carré blanc sur son popotin, sur les
exactement.
Affiches, pour cacher justement ce cul du scandale. D'ailleurs, c'était le début du carré blanc, peut-être,
exactement.
Je ne sais pas, ça vaudrait peut-être le coup de se renseigner. Il n'aurait pas forcément imaginé ça. Et deux mois plus tard, en décembre 72, donc après ce premier scandale, il en sort une seconde d'affiche pour un nouveau spectacle. Il en remet une couche. Ça fait même la une, à l'époque, du journal télévisé.
Polnareff récidive. À nouveau, elle s'expose peut-être à la réprobation d'une partie du public et surtout des autorités judiciaires. Pour son deuxième spectacle parisien de la saison, en effet, il a encore choisi de dévoiler une partie de son anatomie. La dernière fois, Polnareff s'était montré, disons, de dos. Et cette fois-ci, eh bien, il s'est retourné.
Et ça me rappelle, demain je montre...
Demain je montre le bas.
Exactement. On est vraiment... Alors d'ailleurs, il faudrait voir à quel moment c'était cette pub dans les métros parisiens. On va chercher. Racontez-nous cette seconde affiche.
C'est une affiche, c'est vraiment... Alors là, clairement, la réponse à la première.
Hein. Ouais.
Alors comme il a été condamné... Alors il a été condamné, il faut quand même le dire, par le syndicat des couleurs d'affiches. Hein. Donc, c'est pas les Français qui ont porté plainte. C'est pas des gens qui ont porté plainte, c'est vraiment les gens qui collaient les affiches, qui ne voulaient pas coller le cul de Polnareff, si je puis dire. Et donc, il a fait appel pour cette seconde affiche à Tana Kaleya, qui était une photographe polonaise qui s'était spécialisée dans le nu masculin. Elle avait entre autres photographié Nureyev à l'époque.
Pas mal, en effet.
Et donc là, ils imaginent une séance où la Polnareff est nue de face et le chapeau, au lieu qu'il soit sur sa tête, il est à la place de son sexe. Sauf que, petite particularité, il ne tient pas le chapeau. Donc, ce qui veut dire que Polnareff était... Le chapeau tient tout seul, il était très très en forme.
Voilà, potentiellement donc en érection.
Voilà, les garçons vont comprendre.
Voilà, très bien. Voici comment l'artiste, justement, explique ce second round.
Vous savez, cette affiche est simplement la réponse à la première. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ont été déçus que je ne fasse pas appel, car je dois dire qu'il y avait beaucoup plus de gens, heureusement, pour l'affiche que contre. Et je n'étais pas en France et mon avocat avait décidé de ne pas faire appel. Donc, si vous voulez, cette affiche est une sorte de réponse à la précédente pour montrer que je ne me dégonfle pas du tout et que finalement, je présente une affiche qui, bizarrement, bien qu'allant beaucoup plus loin que la première, n'est pas condamnable.
En fait, c'est ça, Polnareff. C'est un sale gamin. C'est-à-dire que quand on lui
gosse,
tape sur la main, il va...
Oui, alors ce qui est très rigolo, il le dit très bien là, dans l'extrait que vous avez choisi, c'est qu'elle est, à la limite plus choquante, la deuxième, que la première.
Et pourtant,
elle ne sera pas condamnée puisqu'il ne fait rien voir.
On se retrouve tout de suite pour la suite de Jour J sur Polnareff, ses fesses, mais aussi sa carrière, vous l'avez compris. Nous sommes en direct. À tout de suite. Évidemment, Clara Luciani avec Respire encore, second extrait de son album Cœur, qui est un album fabuleux, on peut dire ça comme ça.
Hein, voilà. Vraiment, je recommande à tout le monde.
Voilà, peut-être qu'un jour, il y aura un jour J sur Clara Luciani, mais ce soir, on parle de Michel Polnareff. À tout de suite.
Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
C'est les jours J jusqu'à 21h. Effectivement, nous sommes en direct sur RTL, mais également sur RTL.fr si vous souhaitez allier l'image au son. Il se cache derrière des lunettes blanches, sous une crinière bouclée et des vêtements excentriques, mais il a montré ses fesses. Alors voilà, il montrait peut-être l'essentiel. Lui, c'est Michel Polnareff qui a fait scandale le 2 octobre 1972 en découvrant son postérieur, joli de surcroît, sur l'affiche annonçant ses concerts Polnareff Révolution à l'Olympia. Il en écopera donc d'une amende de 60 000 francs à l'époque payée par sa maison de disques. On s'interrogeait justement en se demandant si c'était pas le buzz, je dirais, Benoît Cachin, vous êtes notre invité jusqu'à 21h, si ça n'était pas le premier buzz dans le milieu artistique, ça a pu peut-être effectivement inspirer des publicitaires, puisque le 2 septembre 1981, il y avait cette fameuse publicité provocante, j'enlève le bas,
le haut,
et le 4 septembre, j'enlève le bas, donc c'était en 81. Est-ce que vous pensez que ça a pu inspirer les publicitaires?
Oui, les publicitaires, ils sont très très à l'affût de tout ce qui peut être buzz, et ça a été un vrai buzz en 72, donc c'est tout à fait possible que 9 ans plus tard, qu'un publicitaire s'est souvenu de l'affaire Polnareff pour en faire une nouvelle campagne.
Hein. Ouais, c'est intéressant de se retourner sur le passé, justement.
Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup, en plus.
Et de trouver un lien, effectivement. La liberté de Michel Polnareff, qui en remet une couche, c'est-à-dire que quand on lui tape sur la main, il va refaire une connerie, quoi, quelque part. Hein. C'est un petit peu l'état d'esprit du personnage. Est-ce qu'elle trouve racine, justement, dans une enfance emprisonnée?
Oui, il a eu une enfance très très difficile. C'est-à-dire, Polnareff, il est le fils d'un compositeur et d'une danseuse. Et sa maman était très très effacée, hein, assez passive dans le couple. Et elle était fan de comédie musicale. Mais il ne fallait surtout pas parler de tout ça, puisque le père de Polnareff voulait faire de son fils un saint chavant. Ce qu'il a réussi dans un premier temps, hein, parce que Polnareff a été premier prix de conservatoire. On a même créé le prix Polnareff, hein, c'est-à-dire 20 sur 20 en solfège, qui existe toujours. Hein, c'est un prix absolument prestigieux, et donc c'était un enfant surdoué en musique, sauf que un peu à la Michael Jackson, c'est que c'était à la schlag, quoi, à l'époque, c'est ce qu'on disait, à la ceinture.
Son père était vraiment un tyran.
Son père était violent. Il était plus qu'un tyran.
Donc c'était un enfant maltraité.
Oui, oui. Il y a une anecdote, par exemple, que Polnareff a raconté, c'est qu'il était fan d'Elvis Presley. Il a réussi à s'acheter un 45 tours d'Elvis Presley. Quand le père a découvert ce 45 tours, l'a cassé devant lui. Et Polnareff a longtemps gardé la pochette uniquement. Et le soir, il regardait la pochette et il refaisait la musique dans sa tête, etc. Mais son père voulait que ça soit un grand interprète, un grand pianiste classique, et alors que Polnareff, lui, voulait être un compositeur pop.
Mais à quel prix, justement? Écoutez Polnareff qui parle de son père, effectivement violent.
Surtout que votre prof, c'est votre prof à domicile qui s'appelait mon père et qui, disons, avait une certaine tendance à me frapper à chaque fois que je faisais une erreur, et ça m'arrivait évidemment parce que j'avais pas la connaissance que j'ai maintenant. Ça a été difficile.
Racontez-nous la suite alors. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, il a dû se dire, il faut que je m'échappe. Pour devenir Polnareff, il a fallu qu'il sorte des griffes quelque
part du paternel. Exactement. Il a été à l'armée. Comme il était très très myope, il a été vite exempté au bout de 7 mois, en fait. Alors que c'était 18 mois à l'époque, l'armée. Donc il en a fait 7. Et puis après, il est parti. Il est parti sur les marches de Montmartre où il y avait les fameux beatniks à l'époque. C'est-à-dire, on dirait des babacools. On dirait, je sais pas ce qu'on dirait maintenant. Quoi. En tout cas, c'était des jeunes en rupture. Alors là, c'est avant mai 68, donc c'est vraiment en rupture avec les adultes et avec la société de l'époque. On est sous De Gaulle. Et donc, il ne peut pas partir avec son piano, donc il part avec une guitare. Quoi. Et puis là, il va jouer un peu, il va faire la manche. Hein. Il va même être assez mal en point physiquement, hein, parce que ça va être une période assez difficile, mais en même temps très créatif, parce qu'il va écrire plein de mélodies. C'est un grand mélodiste, hein, comme tout le monde le sait. Et donc il va faire plein de mélodies, il va même partir à Londres, il va essayer de proposer ses mélodies à droite à gauche, mais ça va pas marcher jusqu'au jour où il va passer un concours qu'il va gagner, un concours Barclay à la locomotive à l'époque. Il va déjà la provoque, c'est-à-dire qu'il est un peu dans la mouise, il a pas d'argent, il a pas de boulot, il gagne le premier prix de ce radio crochet, si vous voulez, et il refuse le premier prix, hein, parce qu'il dit je ne veux pas être l'esclave d'Eddie Barclay. donc voilà.
Déjà.
Et il va rencontrer, en fait, par un concours de circonstances, il va rencontrer Lucien Maurice, qui était un des très grands acteurs de la musique, entre autres, qui avait été le mari de Dalida et qui était un très grand producteur de musique. Hein, c'était le directeur des disques AZ. Et Lucien Maurice va tomber amoureux artistiquement de Polnareff. Donc de ce garçon, je répète, qui n'avait rien fait, quoi, qui faisait la manche à Montmartre. Et donc Lucien Maurice va dire, il faut absolument que tu chantes, Polnareff, mais un cahier des charges, quoi, c'est du délire, quoi. Il a des exigences de dingue, dont il dit, ok, mais je ne veux pas changer mon nom, parce que tout le monde voulait changer Polnareff, c'est pas un nom de scène. Il dit, si, je veux enregistrer à Londres, je veux être logé dans un palace, et je veux Jimmy Page, donc le futur créateur de Led Zeppelin, qui jouait dans les Yardbirds, à la guitare.
Rien
et
que ça.
On lui dit oui à tout, et ça donne La poupée qui fait non.
On se retrouve dans un instant, on va parler des grands succès justement de Michel Polnareff, et puis de la trahison aussi, hein, et de son exil. A tout de suite dans Jour J.
Jour J, avec Flavie Flamand, jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, Jour J qui revient ce soir sur une carrière et une paire de fesses, celle de Michel Polnareff. On l'a laissé jeune, artiste vivant donc de petits boulots, grattant sa guitare devant le Sacré-Cœur. Il a fini par être repéré, comme vous nous le disiez. Benoît Cachin, vous êtes notre invité jusqu'à 21h et je conseille votre ouvrage Michel Polnareff, une simple mélodie aux éditions Grund. Oui. On l'a quitté effectivement avec déjà des exigences de star alors qu'il n'est personne.
Exactement. Et en fait, Lucien Maurice donc accepte tout et a raison parce qu'il arrive en 66 et ça va être le raz-de-marée Polnareff, c'est-à-dire que on va dire de 66 à 72, c'est-à-dire en 6 ans, il va faire quasiment tous ses succès, hein, Polnareff.
Ouais,
c'est-à-dire au point de faire frémir Monsieur Hallyday. Et ça va être absolument incroyable. Et il se positionne encore une fois, est-ce de la provoque ? Faudrait lui demander. C'est-à-dire qu'au moment, en 66, où tous les mecs sont très machos, très masculins, Johnny, Eddie Mitchell, etc. Lui, il arrive, il dit c'est une petite chose fragile, tout bouclé, etc. Et en fait, il chante la chanson d'un amoureux éconduit, la poupée qui fait non, quoi. Une fille qui lui dit non, en gros tu coucheras pas avec moi, alors que tous les garçons roulent des mécaniques avec les filles. Donc il est totalement à part, et puis il va imposer cette pop chantée en français, qui est, c'est une révolution, hein. Ils sont deux, il y a Dutronc et lui en 66.
Alors, il cartonne, comment est-ce qu'il vit le succès? J'imagine qu'il doit considérer que c'est tout à fait normal.
Ah ben très bien, très très bien le succès, mais il va l'apprendre à ses dépens en 73. Ouais. Mais n'anticipons pas, là, au début, 66, 7, 8, 9, il enchaîne les succès, c'est absolument délirant, hein. C'est des ventes qui feraient pâlir d'envie n'importe quel
artiste aujourd'hui.
Star aujourd'hui même, je dirais. Ouais. Je parle même pas de débutant. Donc, il fait au point que ses succès sont les faces A et les faces B des 45 tours. Donc, de ces fameux disques de titres.
Hein.
Ah ben il est hyper rentable, sauf que lui, complètement à la ramasse, on dirait, il ne veut rien gérer. Donc, il dépense, alors il n'économise pas.
Il choque l'opinion d'ailleurs avec son train de vie.
Ah bah bien sûr, il a un train de vie de dingue, il a des fourrures, il a des Rolls. Alors au lieu de s'acheter un appartement, il s'achète une Harley Davidson, dernier cri, mais qui conduit uniquement dans son appartement.
C'est dire la taille de l'appartement.
Voilà, il achète un fusil à pompe, et puis alors il se répond avec son voisin, un coup de fusil dans la cour. Bon, c'est complètement délirant, hein. Il a une vie rock'n'roll, vraiment. On est loin de Chopin et du papa qui lui faisait réviser Chopin.
Là. Son mode de vie pose question,
oui.
Justement. Est-ce que c'est là aussi que naît la légende, je dirais, Polnareff ?
Oui, un peu. Il y a la légende et aussi le look. Parce que c'est assez rigolo. Tout à l'heure, vous parliez du premier buzz avec l'affiche en 72, mais aussi c'est la première personne qui va savoir utiliser un look. C'est-à-dire qu'il va se faire friser les cheveux, il va se faire décolorer en blond. On se replace encore dans l'époque fin des années 60. Ça se fait pas du tout chez les garçons, hein. Mais pas du tout, du tout. Bowie n'est pas encore passé par là, hein. Donc ça se fait pas. Il s'habille avec des fourrures, avec des boas, avec des talons compensés, des pantalons poutres apparentes, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, Flavie. Mais c'est ça en plus.
Ouais.
Donc il va être totalement décalé, totalement décalé. Et son style de vie avec.
Est-ce que c'est de là que naissent aussi des rumeurs sur sa sexualité ?
Bien sûr, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il dit, hein, soit on est drogué, soit on est homosexuel quand on est artiste.
On l'écoute tout de suite.
Quand j'arrive avec une fille, on explique que c'est pour faire croire que je ne le suis pas. Quand j'arrive avec un mec, on dit tiens, tu vois, il l'est. Et quand j'arrive avec personne, on explique que je le suis aussi. De toute façon, je le suis. Ça, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça.
Il s'en fout quelque part. Est-ce qu'il a conscience ?
Oui et non, parce que il va y avoir un incident quand même dans les années 70. Quand, en 1970, lors d'une tournée, il y a un fan qui va monter sur scène, un illuminé qui va monter sur scène et qui va frapper Polnareff en le traitant de PD.
Il faut préciser encore une fois, je le disais en début d'émission, qu'à cette époque-là, l'homosexualité
est pénalisée
et considérée en France comme une maladie mentale.
Bien sûr, il faut attendre 82 pour que ça soit dépénalisé. Ouais. Et donc là, ça va être très très dur pour lui. D'ailleurs, il va arrêter sa tournée, il va partir en cure de repos, il n'en peut plus. Et il va demander à Delanoë. Alors, il y a deux versions, on va dire. Il va sortir une chanson qui s'appelle « Je suis un homme », qui était un énorme tube, où il crie qu'il n'est pas homosexuel. Mais alors, il dit « Je ne suis pas pédé, si les filles en doutent, qu'elles viennent me tester hein. ». En gros, c'est ça les paroles. Mais tout en faisant ça, il s'habille en boa, talons aiguilles et pantalon en satin, quoi. Voilà. Donc, il y a un personnage qui est complètement décalé, qui est génial, quoi. Et parce qu'il a compris la force du look aussi.
Et on l'entend justement cette chanson. Polnareff poursuit donc sa carrière et ses coups d'éclat, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce drame, en fait, à cette époque-là, un véritable drame, un drame financier, une trahison qui viendra de l'un de ses plus proches. En général, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il devra donc fuir aux États-Unis. On se retrouve dans un instant pour parler de son exil dans Géorgie.
Et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis.
Michel Polnareff est à la une de Géorgie. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.
20h, 21h, Géorgie. Flavie Flamand sur RTL.
Georges qui vous parle ce soir d'un illustre popotin, mais pas que, car Michel Polnareff ne se résume évidemment pas à cette affiche qui fait scandale en 72. Polnareff, c'est une carrière brillante, très rapide en fait, hein, Benoît Cachin.
Oui, fulgurante. Hein,
fulgurante, je dirais, et évidemment des mystères qui l'entourent. Benoît Cachin, est-ce qu'un artiste qui tutoie le firmament est en fait, je dirais, dans sa période la plus vulnérable? Parce que je voudrais qu'on revienne sur sa rencontre avec Bernard Senault.
Oui.
Vous disiez il y a un instant, en fait, il brasse énormément d'argent. Et puis lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de dépenser, de vivre, de profiter, de faire ses disques. Donc, est-ce qu'un artiste qui est au top à cette époque-là est bien vulnérable?
Ça dépend des artistes. Lui, oui, parce qu'il ne veut pas entendre parler de tout ce qui est matériel, qu'il considère un peu comme assez vulgaire. Donc, du moment qu'il peut dépenser en restaurant, en voiture, en vacances, en jeune fille très séduisante qu'il emmène à l'autre bout du monde... Tout va bien, hein. Il se préoccupe pas de savoir comment on fait pour payer l'électricité et le téléphone, hein. Lui, voilà, donc il confie toutes ses tâches subalternes à ce fameux Bernard Soro, qui va l'arnaquer total.
Que lui présente son garde du corps, c'était quand même pas une vérification sur un CV, c'est un peu...
C'est comme ça, oui. C'était Bernard Soro, c'était quelqu'un très sûr de lui, très avenant, donc ne t'inquiète pas Michel, je vais m'occuper de tout, amuse-toi, vas-y, t'inquiète pas. Et ben, il détourne tout l'argent de Polnareff, et puis un jour, Polnareff, en 73, il y a le fisc qui lui tape à la porte en disant, monsieur Polnareff, vous nous devez X millions, et là, il tombe des nues. Parce qu'il dit, mais non, mais il y a quelqu'un qui gère, qui paye mes impôts pour moi. Ah mais non, il est parti, le monsieur. Il est parti ouvrir un restaurant...
À New York.
À New York. Et donc, Polnareff n'a aucun moyen de le rattraper, en fait.
Parce que je n'oublie pas, pardon, mais cet enfant maltraité qu'il était, et moi j'ai l'impression, en préparant cette émission, qu'il était... parfois aussi animé par l'angoisse de l'abandon. Enfin, il a vécu des abandons.
À tout le temps, toute sa vie.
Voilà, il a vécu des trahisons. Alors, est-ce que c'est ça qui construit le personnage qu'il est aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, il a dû tomber des nues.
Ah ben, ça a été terrible.
Parce qu'il a un côté enfantin, vous voyez ce que je veux dire?
Exactement, il est très enfant. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec Michael Jackson, qui aussi a été un enfant battu et qui aussi va avoir un rapport à l'argent très très compliqué, quoi, très très compliqué. Et Michel Polnareff, ça a toujours été ça, il s'est toujours laissé très influençable. Alors ce qui est délirant, parce que des grands artistes qui sont géniaux, quoi, un très grand mélodiste qui a fait des chansons absolument délirantes, Polnareff, hein, c'est un répertoire de fou. Et on se dit c'est quelqu'un très sûr de lui, qui peut avoir des propos même des fois un peu choquants tellement il a l'air d'être au-dessus de la mêlée. Et en fait se faire avoir par le premier mec qui lui raconte des conneries, quoi. Voilà.
Est-ce que c'est ça qui l'a envoyé aux États-Unis? Parce que c'est l'exil aux États-Unis la même année, 73.
Oui, ça va précipiter, en effet. Vous avez raison. Il avait l'intention, de toute façon, parce qu'il dit dans une interview qu'il a plus rien à faire en France. Il a fait le tour de la France, voilà. Et que maintenant, sa carrière est aux États-Unis.
Alors, on l'écoute tout de suite et on y revient dans un instant.
La tendance de la musique française me pousse à partir pour un pays où la musique ressemble plus à ce que je fais, c'est-à-dire aux États-Unis. Or, je reproche rien de spécial à la musique française, c'est-à-dire je trouve qu'il y a une impossibilité actuellement d'évoluer. Et si, par exemple, je suis actuellement les chemins qu'elle présente, moi, j'ai l'impression de tricher parce que ça ne correspond plus du tout à ce que j'aime. Donc, je n'ai jamais triché, j'ai toujours fait ce que j'aimais au moment où je l'ai fait. Mon dernier disque, I Love You Because, est très très mauvais.
Alors là, il a des arguments qui sont des arguments purement artistiques.
Oui.
Mais néanmoins, il n'explique pas la réalité de sa situation financière.
Non, en fait, ça va précipiter son départ, cette histoire de Bernard Senault, tout simplement pour échapper à la prison. Hein,
ouais.
Parce que le fisc lui réclame de l'argent qu'il est incapable de rembourser. Donc, il part. Alors, il a un billet, un aller simple sur le France. Et donc, il part sur le Queen Mary, d'ailleurs, je crois, à l'époque.
Il
part comme ça. Alors, il raconte que il est dans une couchette de luxe, hein, dans une suite, voilà. Sauf qu'il n'a plus d'argent.
Polnareff, quoi.
Voilà. Et donc, il mange pas. Et il boit l'eau du robinet, parce qu'il n'a pas d'argent. Et en fait, il va se faire héberger à New York, etc. Et puis, très vite, il va aller sur la côte ouest, à Los Angeles. Et là, ça va être le premier artiste à signer avec Atlantic, qui est une maison de disques culte.
Et c'est le début de sa carrière, je dirais,
américaine.
Aux États-Unis. Je voudrais qu'on revienne au 26 octobre 1975, alors qu'il ne peut pas revenir en France.
Exactement.
RTL organise un concert.
Oui, Parce que en fait, les fans sont en manque de Polnareff. Faut imaginer que là, c'est une méga star qui part aux États-Unis. C'est la grosse star française. Et donc, les fans veulent le revoir. RTL a une idée géniale. Ils organisent un concert géant, mais non pas en France, puisqu'il ne peut pas revenir en France, mais en Belgique, à la frontière belge. Et donc, alors, il va y avoir plein de péripéties. Ils vont affréter un train pour que les fans français puissent assister au concert.
C'est génial.
Les musiciens vont être coincés à la frontière. Donc, Polnareff va se retrouver en Belgique tout seul. Il va faire le concert au piano avec un mégaphone. Quoi, c'est le truc délirant. Dieu merci, eh ouais. RTL va retransmettre en différé au mois de janvier ce concert dont on a une trace parce qu'on l'a
c'est
entièrement
génial.
Ce concert qui est absolument délirant.
Et c'est RTL qui l'a fait.
C'est RTL.
Dernière chose sur les États-Unis, je disais tout à l'heure que la France lui manquait, qu'il avait écrit Lettre à France très rapidement. En fait, il était en pétard contre la France.
Oui, il était très très en colère.
Il se sentait encore une fois abandonné.
Exactement. Et en fait, il a envoyé une cassette à Jean-Loup Dabadie qui lui a fait une chanson sur la France. Et Jean-Loup Dabadie m'avait dit à l'époque, quand je l'avais interviewé, je suis sûr qu'il va me la renvoyer en disant il est hors de question, mais les paroles sont tellement sublimes et collent tellement parfaitement avec cette mélodie triste à mourir, en plus elle est d'une tristesse incroyable, que Polnareff va dire oui, en fait je ne peux pas ne pas chanter mon amour pour la France, et il va revenir en 78 et il va gagner son procès, il va être lavé de tout soupçon de corruption.
Allez, l'avis de Michel Polnareff aujourd'hui, c'est dans un instant. On va revenir aussi à Pascal Obispo, qui lui a rendu hommage d'une façon absolument magnifique, mais qui n'a pas été très bien accueilli par l'artiste.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Encore quelques minutes ensemble. Merci d'être avec nous, Benoît Cachin. C'est passionnant. En 2003, puisqu'on parle de Michel Polnareff, moi j'en ai des frissons. Je l'ai écouté aujourd'hui au bureau. Le chanteur Pascal Obispo veut rendre hommage en chanson à son idole Michel Polnareff. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé.
J'ai vécu sous des posters, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts, en rêvant de voir apparaître Marie-Lou.
J'ai des frissons.
Mais oui.
C'est une chanson, mais je trouve absolument magnifique. C'est trop beau comme hommage. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un bel hommage, mais qui n'a pas été du goût de Michel Polnareff. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que il a, je pense, une très haute opinion de lui-même. Il n'a pas compris la démarche de Pascal Obispo, qui a peut-être été un peu maladroit dans la façon dont il a... Parce qu'à l'époque, il a été dans une émission de télé et puis il a dit, mais gentiment, de bonne foi, il a dit « Je sens que Michel Polnareff a du mal à sortir un nouvel album ». Rappelons qu'il a mis 28 ans à sortir un nouvel album entre Marie-Lou 90 et 2018.
Et donc, Laurent Voulzy, c'est petit joueur à côté.
Oui, voilà, Laurent Voulzy, c'est un super producteur de disques. Donc Pascal Obispo avait tout à fait raison et très gentiment, mais comme un fan a dit « Mais moi, j'adorerais l'aider, s'il veut que je l'aide, je l'aide ». En se faisant tout petit en plus. Quoi. Je le connais un peu, Obispo c'est quelqu'un de très admiratif de Polnareff, et Polnareff a pris ça comme un peu un outrage, genre il veut me donner des leçons ce petit
con. Je vais dire la réponse
dommage.
De l'intéressé par tweet, écoutez bien: je suis très sensible à la proposition de Pascal Obispo de m'aider à composer mes nouvelles chansons, ce qui équivaut à ma proposition d'aider Einstein à terminer l'énoncé de sa théorie sur la relativité. Voilà. J'ai travaillé avec les plus grands et il n'en fait pas partie.
Voilà, non, mais il a été très dur.
Après,
et très méchant.
Après, c'est une question de politesse, presque. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, mais je suis d'accord, Flavie. Il a pas été très sympa. Et puis, en plus, c'est très dur si on se place du côté d'Obispo. Quoi. Moi, qui suis un fan dans l'âme, j'ai eu la chance de rencontrer les personnes que j'admirais enfant. Et si j'avais reçu cet accueil, mais ça aurait été terrible pour moi. Et ça a été terrible pour Obispo.
Oui, parce qu'il a couru un risque, en plus. Parce qu'il s'est pris un vent de son idole, mais un vent public.
Oui, et puis en plus, quand en 2003 il sort ça, Polnareff est quasiment oublié du grand public. Les jeunes ne savent pas qui est Polnareff.
Il reviendra après.
Oui, il revient en 2007. Donc c'est vraiment Obispo. Il c'est un passeur, quoi. Il veut faire connaître. C'était son but de faire connaître l'œuvre de Polnareff. Et c'est tombé totalement à côté, quoi. Ça a été terrible pour Obispo, vraiment.
Et ça a été quand même une sorte de promotion avant l'heure de ses concerts et de son retour en France de Polnareff en 2007. Ouais. Et il faut quand même préciser qu'il a fait une fleur à Obispo en lui interdisant l'accès à Bercy.
Exactement. Ouais. Ça a été assez terrible. Hein. Il a pas invité Obispo. Il lui a demandé de pas venir. Quoi. Il lui a interdit de venir, d'ailleurs. Bon, après, Obispo, il y a peut-être été en prenant des places et incognito. Mais bon, c'était très, très dur, quand même. C'était très, très dur.
C'est quoi sa vie aujourd'hui à Polnareff, rapidement?
Oh, bah, sa vie, c'est à Los Angeles avec sa femme et leur fils. Voilà. C'est qui n'est pas vraiment leur fils, comme tout le monde le sait. Quoi.
C'est
pas
très romanesque,
fils de...
encore. Oui.
C'est encore un autre chapitre de la vie de Polnareff. Et voilà, bon, c'est quelqu'un qui est, il est revenu en 2018 avec l'album Enfin, donc après 28 ans d'absence. Ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, qui a beaucoup déçu les gens.
Il y a des titres qu'il ne faut pas choisir.
Voilà, c'est dommage parce qu'il ne faut pas rester là-dessus, parce que Polnareff, c'est un très grand mélodiste, et vous l'avez rappelé tout le long de cette émission. Il a fait vraiment des chansons. On aimerait en avoir écrit une seule de toutes celles qui jalonnent le début de sa carrière. Donc vraiment, il faut réécouter Polnareff, en tout cas de 66 à 81 bulles, ou 90, on va dire Kamasutra, jusqu'à 90.
Et lire votre ouvrage, Michel Polnareff, Une simple mélodie. Merci beaucoup, Benoît Cachin.
Merci, Flavie.
D'avoir accepté mon invitation. J'espère
Merci
vous recevoir
vous.
Encore prochainement.
Quand vous voulez.
Et on se retrouve ce livre aux éditions Grund.
Flavie Flamand sur RTL, jour J.
En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur l'antenne d'RTL. Alors attention, cette fois-ci, nous serons le 17 janvier 2013. Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, après avoir juré mordicus être victime de rumeurs éhontées, avoue avoir toujours été dopé et sacrément dopé. Voilà, ça ce sera demain dès 20h. Sachez que si vous avez raté le début de cette émission ou si vous voulez la réécouter, elle sera dans quelques instants disponible sur l'application RTL comme toutes les précédentes. Donc c'est comme ça, Benoît Cachin, que vous pourrez aussi écouter toutes ces émissions qui
sans
ont
problème.
Précédé
avec beaucoup de plaisir.
La nôtre. Merci Benoît Cachin, merci à vous tous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eric Jean-Jean et Bonus Track. MC Solar, on est l'invité pour une émission spéciale, donc forcément géniale. Vous connaissez Eric.
Salut Eric. Évidemment.
Voilà, on l'embrasse. Bonne émission à toi, Eric. Bonne soirée à tous sur RTL. Je vous dis à demain.